Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Trop de collusion entre Total Energy et l'État. Des ONG dénoncent ce matin le mélange des genres entre les pouvoirs publics français et le groupe pétrolier, notamment autour d'un méga projet en Ouganda. Explication dès le début de ce journal. Dernier jour de tests gratuits pour tout le monde. À partir de demain, PCR et antigéniques de confort deviennent payants. De quoi convaincre les réfractaires à la vaccination? Pas si sûr, vous allez l'entendre. Au sommaire aussi ce matin, le Laboratoire de la République, ce club anti-woke lancé par Jean-Michel Blanquer, une grève de la faim pour soutenir les migrants à Calais et le retour d'un Tour de France féminin.
Et avec Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui l'ancienne sage-femme Chantal Birman, héroïne du documentaire À la vie, réalisé par Aude Pépin. L'État main dans la main avec Total pour lancer des grands projets controversés en Afrique.
C'est ce que dénoncent plusieurs ONG dans un rapport au Vitriol publié ce matin. Les Amis de la Terre, Survie et l'Observatoire des multinationales accusent l'État de mettre tous ses moyens et ses institutions publiques au service du groupe pétrolier, notamment pour un gigantesque projet d'extraction très critiqué en Ouganda. Pour ces associations, c'est en complète contradiction avec le discours de Paris en faveur de l'environnement. Environnement et des droits de l'homme. Plus largement, Lauriane Delanoë, ce rapport pointe aussi un mélange des genres devenu récurrent entre Total Energy et les pouvoirs publics français d'un gouvernement à l'autre.
Un porte-parole de Total nous l'assure, il n'y a pas de stratégie pour infiltrer le cœur de l'État. C'est pourtant ce qu'affirment les associations dans ce rapport. Olivier Petitjean, le coordinateur de l'Observatoire des multinationales, a épluché les parcours des hauts dirigeants du groupe.
Je pense qu'on peut que être frappé par le nombre de ces personnalités qui viennent de Total et qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères ou l'Élysée, ou à l'inverse, qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères et qui maintenant travaillent pour Total. Et d'ailleurs, on a contacté toutes ces personnes, certaines nous ont confirmé que ça s'était beaucoup accéléré ces derniers temps.
D'après les organisations, cette confusion se retrouve en Ouganda dans le vaste projet de Total, projet dénoncé par les associations écologistes et de défense des droits de l'homme. Juliette Renaud, des Amis de la Terre.
C'est l'ambassadeur qui va faire des discours publics, par exemple dans son discours du 14 juillet, en faveur du projet pétrolier. C'est aussi l'ambassadeur qui va organiser des réunions entre Total et d'autres entreprises en Ouganda. Un grand nombre d'événements de l'ambassade sont sponsorisés par Total. Et donc, on a des institutions au service d'un projet pétrolier, en plus dans un pays où on a un régime autoritaire avec une répression croissante des opposants, et notamment des opposants au projet de Total.
Total, pour sa part, dément toute confusion et rejette les accusations d'atteinte aux droits humains.
Lauriane Delanoë et deux des ONG à l'origine de ce rapport, les Amis de la Terre et Survie, ont déjà entamé une bataille judiciaire contre Total Energy et ce projet en Ouganda au nom de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ces motivations restent encore floues ce matin, mais la piste terroriste n'est pas exclue par les enquêteurs. Un homme armé d'un arc et de flèches a tué 5 passants hier soir dans le sud-est de la Norvège. 2 autres sont blessés. Ce Danois de 37 ans a été interpellé très rapidement après les faits.
Il est 7h33 en France, Alexis. Les couvillons gratuits pour tous, c'est bientôt fini.
Oui, dernier jour pour bénéficier des tests Covid dits de confort sans rien débourser. À partir de demain, ils deviennent payants pour les non-vaccinés, majeurs et sans ordonnance. 44 euros minimum pour le PCR, 22 à 25 pour l'antigénique, ces tests qui permettent d'avoir le QR code pour aller au restaurant ou encore au cinéma. Pas de quoi convaincre Anne-Laure de se tourner vers la vaccination. Cette habitante d'Annecy en Haute-Savoie est prête à restreindre encore plus ses sorties.
Bah moi, je m'arrange toujours pour ne pas avoir besoin de faire de test, donc je sors plus beaucoup, je vais plus au sport. Quand je vois des amis, bah c'est chez moi ou en extérieur, et puis je me débrouille pour en faire le moins possible tous les jours. Mais quand je suis obligée d'en faire, bah c'est sûr que ce soit gratuit, c'était bien. Maintenant que ce soit payant, c'est vraiment nous couper toute la liberté en fait, et nous obliger, voilà, à aller contre certaines choses qu'on veut pas faire. Bah, si vraiment j'ai besoin de temps en temps de me réunir, de voir des amis pour aller au resto, je ferai ce test qui est payant, mais c'est sûr que je le ferai pas toutes les semaines, quoi.
Anne-Laure d'Annecy au micro France Bleu Pays de Savoie de Richard Vivion. Les tests restent remboursés sur prescription, mais aussi pour les personnes vaccinées et pour les mineurs. À l'école primaire, justement, la fin du masque obligatoire s'étend encore un peu plus ce matin à 12 départements supplémentaires pour les écoliers. Parmi ces départements, l'Ain, la Drôme, la Moselle ou encore la Seine-et-Marne. En revanche, à l'inverse, le masque redevient impératif pour les écoliers de Lozère en raison de la hausse du taux d'incidence constatée ces derniers jours dans le département. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, compte bien ne pas parler que de protocoles sanitaires dans les prochaines semaines. Jean-Michel Blanquer veut peser dans la campagne présidentielle, notamment sur la laïcité. En cette semaine d'hommage à Samuel Paty, il a lancé hier soir son laboratoire de la République devant 200 invités réunis à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Parmi eux, la députée LREM Aurore Berger, la philosophe Elisabeth Badinter ou encore le journaliste Philippe Val. Vous y étiez pour Inter, Timur Öztürk. Alors à quoi va-t-il ressembler ce cercle de réflexion voulu par le ministre ?
Ce n'est ni un parti, ni un mouvement, ni même un courant, insiste Jean-Michel Blanquer devant une salle comble. Le ministre jure que son cercle de réflexion est fidèle à l'esprit du macronisme.
Chacun sait bien que je suis membre du gouvernement et bien sûr en soutien du président de la République. Et nous pensons que le modèle républicain reste le modèle valable pour affronter les défis du 21e siècle.
Jean-Michel Blanquer se verrait bien aux avant-postes de la lutte contre ce qu'il appelle les pensées de la fragmentation, dont le wokisme, un concept né dans les mouvements militants afro-américains aux États-Unis, que la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry décrit à sa manière.
Ce qui fragmente, c'est évidemment la vision wokiste, indigéniste, certains discours décoloniaux absolument radicaux qui séparent des réunions en fonction de la couleur de peau ou en fonction du sexe. C'est pas notre France, c'est pas notre projet.
Le laboratoire de la République va aussi affronter les thèses de l'extrême droite, assure la députée européenne Ilana Sicurel.
C'est une extrême droite qui a une manière extrêmement pernicieuse de se réclamer de la République alors même qu'elle en viole les principes les plus fondamentaux.
Au-delà de 2022, Jean-Michel Blanquer aimerait que son think tank s'inscrive dans la durée. Mon objectif n'est pas que de nourrir le débat de la présidentielle, assume-t-il.
Timur Öztürk. C'est pour échapper à d'éventuels contrôles de police qu'un groupe de migrants s'est réfugié sur les voies SNCF mardi près de Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque. Précision donnée hier soir par le procureur qui est revenu sur ce terrible accident. Trois d'entre eux, probablement des Algériens, sont morts fauchés par un TER. Hier soir, 200 manifestants se sont rassemblés devant la gare de Saint-Jean-de-Luz pour leur rendre hommage. À Calais aussi, mobilisation cette semaine en faveur des migrants. Les associations humanitaires y dénoncent depuis plusieurs mois déjà la façon dont sont traités les exilés. Mais il y a deux semaines, la mort d'un mineur soudanais écrasé par un camion a beaucoup choqué. Trois habitants de la ville ont entamé lundi une grève de la faim. Un prêtre du Secours catholique et deux militants occupent une église pour dénoncer la situation des migrants à Calais. Rémi Brancato les a rencontrés.
Anaïs Vogel nous montre la petite chapelle occupée au fond de l'église.
Alors, il y a trois lits de camp.
C'est une installation sommaire.
Non, c'est pas sommaire. On a des habits, on a des couvertures. La police ne vient pas nous les prendre, donc ça va.
Alors, elle demande justement l'arrêt des confiscations des biens des exilés, la fin des expulsions pendant l'hiver et l'ouverture d'un dialogue avec l'État. Dialogue inexistant, dénonce Ludovic Holbein, son compagnon.
On s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut encore faire pour être écouté ? Malheureusement, la seule réponse qu'on a trouvée, c'est la grève de la faim.
Le préfet du Pas-de-Calais nous dit regretter cette méthode.
On est d'accord avec la préfecture, on trouve ça déplorable d'arrêter de manger pour des revendications qui sont assez faibles. Expulser une personne de son lieu de vie pendant la trêve hivernale, en fait c'est interdit. Si effectivement à un moment donné ça a des conséquences graves, et ben ça sera la faute de l'État et de la municipalité.
La préfecture assure dépenser 20 millions d'euros par an pour des mises à l'abri, des distributions alimentaires.